Phil PM. Politique.
Là, on a des discussions. François Bonnardel, le ministre des Transports, rencontre M. Champagne. J'espère être capable d'annoncer rapidement que le financement est complété, puis on va accélérer. Donc, je peux pas aujourd'hui vous donner une date, là, mais je peux vous dire là, que la commande qui est passée à François Bonnardel, c'est faut que ça soit réalisé le plus vite possible.
Voici Paul Journet et Carl Bélanger.
Alors, c'était François Legault, donc, hier, au terme, donc, d'une rencontre à laquelle participait le ministre Champagne, ministre fédéral, mais aussi la mairesse de Montréal, Mme Plante. Et là, on parle, évidemment, du prolongement de la ligne bleue. Ça fait des années qu'on parle de ça. Je vous rappelle, là, le calendrier officiel. OK? Parce que je l'ai reconfirmé hier après l'émission. En principe, le prolongement de la ligne bleue dont on parle depuis les années 80, la construction devrait commencer en 2021. Ça, c'est selon l'échéancier actuel. Ça devrait être complété. Les cinq stations en même temps devraient être complétées là, en 2026. OK? Paul Journet et Carl Bélanger, bonjour.
Bonjour.
Ça, là, quand je vois des chiffres de même, là, je me dis, Christy, qu'on est une gang de maudits taponneux, puis on n'est pas capable de construire des grands ouvrages, des infrastructures dans des échéanciers qui ont de l'allure. Ça n'a pas de bon sens que ça prenne autant de temps.
On peut pas être des taponneux en même temps, Bernard, quand même.
C'est-à-dire?
Ben, c'est-à-dire qu'il doit au moins avoir des gens qui essayent de faire un bon travail.
Non, mais je te parle de l'État, là. Je te parle de l'État québécois en particulier, là, au niveau des infrastructures. On n'est pas bon. Et là, Legault dit, moi, là, 2021-2026, je veux accélérer ça.
Laisse-moi être en maudit en même temps que toi, Bernard.
Vas-y, mon gars.
T'as raison d'être choqué. Puis plus précisément, les gens de l'Est de Montréal ont raison d'être choqués parce que on dirait presque qu'on rit d'eux. Il y a deux dossiers, le boulevard Notre-Dame puis le prolongement de la ligne bleue du métro qui sont annoncés depuis les années 70 ou 80. Puis ce qui est le fun avec ces dossiers-là, c'est que chaque gouvernement a eu son scoop. Chaque gouvernement a pu l'annoncer, a dit maintenant ça va aller de l'avant. Puis finalement, ça allait plutôt nulle part. C'était bloqué, c'était relégué aux oubliettes, on relançait le projet, on le remettait entre parenthèses. Puis François Legault va avoir une chance dans son mandat d'être en quelque sorte le vengeur de l'Est de Montréal. Tu sais, Bernard, on le présente souvent comme étant François Legault, l'homme du 4-5-0. Oui. Puis dans une certaine mesure, c'est vrai quand tu regardes où sont ses appuis, oui, les positions qu'il défend, mais il pourrait vraiment être le vengeur historique de l'Est de Montréal pour ces deux dossiers que je t'ai mentionnés. Écoute, le boulevard Notre-Dame, je sais pas si tu t'en souviens, moi je m'en souviens avec difficulté parce que je n'étais même pas un vague projet à l'époque, mais au début des années 70, le gouvernement de Robert Bourassa avait exproprié plus de 1500 logements dans Hochelaga. Il avait dévasté une partie du quartier, tout ça pour construire l'autoroute
du quartier de la Mlace.
Puis tout ça pour construire une autoroute finalement qui n'a jamais vu le jour. Puis on attend encore ça. François Legault a lancé un bureau de projet pour enfin revitaliser le secteur du boulevard Notre-Dame. Oui, mais je comprends que tu roules des yeux, je comprends que ça te rassure pas, mais il faut dire que pour aller de l'avant, ça commence. C'est une étape obligatoire aller avec un bureau de projet. Donc, c'est pas en soi un mauvais signe.
Mais il n'y en a pas eu des bureaux de projet déjà?
Oui, mais là, c'est un nouveau projet, puis les derniers bureaux de projet, ils faisaient quelque chose qui était un peu tout croche. Donc, tant mieux si on fait quelque chose de beau, mais on devrait avoir la sagesse du cocu, c'est-à-dire pas
la sagesse.
Juste trop vite à la victoire, puis attendre de voir que le projet
attends,
se concrétise.
Attends. La sagesse de quoi?
La sagesse du cocu.
OK, le cocu, c'est nous, là?
C'est nous.
C'est le fun.
C'est le grand nous collectif, Bernard.
Je pensais juste qu'on était des contribuables qui s'étions fait niaiser, sinon pire.
Dans la catégorie pire, tu peux cocher ça, et c'est ce que j'entends par cocu. Personne qui s'est fait avoir. Donc ça, c'est pour le boulevard Notre-Dame. Enchaînons avec l'autre dossier dont on parlait tantôt.
Attends, je vais voir Carl. Carl, vas-y.
Ben écoute, je savais pas qu'il y avait une sagesse qui était reliée au cocu. Maintenant que je le sais, je me sens plus grandi. Une chose qui est importante de mentionner, c'est que le gouvernement fédéral aussi a un rôle à jouer là-dedans. Rappelle-toi le rapport du vérificateur général il y a 2 ans qui disait « L'argent qui était mis en place pour l'infrastructure ne se rend pas au projet ». Il n'y a pas de projets identifiés ou qui sont prêts à recevoir. Okay, il y avait 14 milliards identifiés dans le budget en 2016.
Il n'y a pas juste Québec qui n'est pas bon. Ottawa n'est pas bon non plus.
C'est généralisé et le fédéral a une part de responsabilité parce que l'argent ne se rend pas aux provinces et aux chargés de projet.
D'ailleurs, quand j'entends Legault dire on veut attacher le financement là, pour que le projet, dans le fond, soit lancé avant 2021, moi, je pensais que le financement, là, c'était fait, mon ami. Là. Ottawa, ils ont mis au-dessus d'1 milliard pour le prolongement de la ligne bleue. Québec, j'imagine que c'est dans aussi, le PQI. Ça doit dans le programme québécois des infrastructures. Ça fait des années qu'on l'annonce, le prolongement des... Dites-moi pas que Québec n'a pas mis d'argent de côté pour construire les 5 stations.
Écoute, je pensais que c'était fait, mais ça a l'air qu'on est en train de finaliser la finalisation des modalités de financement. Ça a l'air qu'on en est rendu là, mais ce que je voulais dire, c'est que donc tu avais le dossier du boulevard Notre-Dame, mais aussi celui de la ligne bleue.
Oui.
Puis la ligne bleue, c'est vrai que tu as eu des problèmes des fois avec le fédéral, mais ce qui a retardé la ligne bleue, c'est qu'à chaque nouveau gouvernement, sacre aux poubelles ce que le précédent gouvernement a fait, se réinvente des priorités. Puis souviens-toi, on était censé faire le prolongement de la ligne bleue avant, bien avant de prolonger la ligne orange. Donc, il y a eu des gouvernements qui sont succédés, qui ont changé les priorités.
C'est vrai ça. T'as peu, là, tu me l'apprends. Là.
Ben,
On devait historiquement prolonger la ligne bleue avant d'amener le métro à Laval?
Bien, la ligne bleue s'est projetée dans les années 80. On était rendu là, le projet a eu plusieurs moutures, mais on était censé prolonger la ligne bleue dans les années 80. Puis c'est la décennie suivante qu'on en est venu avec le prolongement de la ligne orange.
Et c'est là que tu vois que la ligne rose, là, on est très loin. Parce que ces plans-là existaient, puis on n'est pas là. Évidemment, la ligne rose, on est encore plus loin.
T'es en train de nous dire que Valérie Plante va refaire au moins une élection sur la ligne rose?
Absolument.
Au moins une la prochaine, puis c'est réélu avant de faire une autre sur la prochaine encore. OK, je veux faire un petit détour par Ottawa. Carl, parce que hier, tu nous as parlé donc du départ de Scott Bryson, là, le super ministre de l'Atlantique là, qui a annoncé qu'il partait. Tu as émis une hypothèse à l'effet qu'il quittait à cause de l'affaire Norman, donc cette histoire d'anciens militaires haut gradés qui est devant les tribunaux parce qu'il y aurait supposément, c'est les allégations, donc transmis des informations confidentielles pour bloquer Irving, qui serait, encore là, c'est allégué, proche de Bryson, de ce ministre donc qui démissionne. Et là, la question elle a été posée à M. Trudeau. Après que nous as soumis cette hypothèse, la question a été posée à M. Trudeau.
Mais oui, Trudeau est en tournée présentement, on pourra en reparler, mais parmi les choses qu'il doit faire, c'est de se soumettre aux questions des médias. Et là, il y a une journaliste qui a effectivement pris cette hypothèse-là et demandé à Justin Trudeau, est-ce qu'il y a un lien entre le départ de Scott Bryson et le procès de l'admiral Norman et le fait que Scott Bryson devra témoigner? Écoutons la réponse de Justin Trudeau.
I've said and I've accepted Scott Bryson's decision based on his desire to spend more time with family, and that is certainly something that I can understand as a father of young kids myself.
Oh, boy!
Est-ce que t'as pas besoin de comprendre
hein? L'anglais pour savoir qu'il était pas dans ses souliers habituels.
La glace était très, très mince. La glace était mince. Il patinait pas mal, puis il y a eu de la misère.
Il patinait sa bottine.
Écoute, c'était les deux pieds sa bottine. Écoute, attends un peu, là. Tu sais de quoi tu parles? C'est ton ministre qui a démissionné. T'arrives avec ta réponse. Tu te fais poser une question qui semble évidente.
Ben.
Et là, t'as de la misère. Là, t'as de la misère.
C'est une hésitation bilingue. Hein? Il était dans les deux langues officielles en même temps.
Hey, on n'a pas vu Trudeau déculotter comme ça depuis un petit bout, là.
Ben, ça fait un petit bout de temps, oui. Il a pris de l'expérience, il a pris une capacité de répondre aux questions rapidement, même s'il dit rien. Mais dans ce cas-ci, ça y a pris du temps avant de retrouver son équilibre. C'est le moins qu'on peut dire.
OK. Tout ça s'inscrit dans sa tournée. Résume-nous ça en 1 minute 30 à peu près, sa tournée de l'Ouest. Il est en Colombie-Britannique et en Saskatchewan, hein, c'est ça?
Oui, il était en Colombie-Britannique lundi. Il fait ça chaque année. Il va voir les gens, c'est des forums publics, il rencontre la population et ça lui permet de répondre aux questions, prendre le pouls un peu. Et là, écoute, c'est un exercice plutôt dangereux. Parce que c'est pas ce que les gens vont demander. À Kamloops, ça a brassé. La question autochtone est venue sur le tapis. Écoute bien ce que ça a donné.
You don't build pipelines by being a climate leader. You want truth and reconciliation with First Nations.
Sir.
And you get our people arrested.
I'm trying to answer this woman's question. And I would very much like to be able to give her an answer.
You're a liar and you're a weak leader. What do you tell your children?
Sir.
Oh, comment il a dit ça? Why are you a weak leader? Pourquoi êtes-vous un leader faible?
C'est ça. You're a liar and a weak leader. Vous êtes un menteur et un leader faible. C'est sur la question des pipelines, des gazoducs et des revendications autochtones. Il dit fondamentalement que vous nous avez trahis. Et ça a été comme ça toute la soirée. Il y a eu plusieurs intervenants autochtones qui l'ont chahuté.
Il faut se rappeler que la Colombie-Britannique avec le Québec, c'est les deux provinces où il doit faire des gains au moment de l'élection de l'automne prochain s'il veut garder son gouvernement.
Voilà, voilà. Donc, ça a brassé, ça démontre comment c'est périlleux, parce qu'évidemment, la colère des gens peut s'exprimer là-dedans. Hier, il était à Regina, et c'est la question de l'énergie et du pétrole qui a été soulevée qui m'a intéressé. Les propos de François Legault, évidemment, font des vagues sur le pétrole sale, là, et on a posé une question à Trudeau sur le pétrole et le Québec. Écoute bien sa réponse.
There is a lot of misinformation out there that talks about, among others, Quebec as being reliant on Saudi oil, and that's a problem for Canada and a big issue. That is false. Quebec actually gets its oil from the United States and from Western Canada.
Ah, ben ça, c'est vrai. C'est factuellement vrai.
Amen. Oui, mais il n'a pas peur d'aller au bâton puis de remettre ce point sur
l'île. Alors là, donnons-lui le crédit.
Absolument.
Donnons-lui le crédit. Il s'est tenu debout, là, puis écoute, c'est pas évident ce qu'il vient de faire là. Il est devant un auditoire de l'Ouest, puis il dit, là, le bashing sur le Québec, là, basé sur des faussetés, mais je vais vous donner une idée de fausseté. Puis là, il corrige les faits, puis il dit que le Québec achète la majorité de son pétrole de l'Ouest du Canada puis du Dakota, essentiellement des États-Unis. Il dit vrai. Ah ben là je lui lève mon chapeau.
Oui, écoute, puis il est très à l'aise dans ce format-là. Hein. Écoute, ça dure 2 heures à peu près, il reçoit toutes sortes de questions. Il est très à l'aise, il est très confortable. Évidemment, c'est pas des questions de journaliste, il n'y a pas de follow-up non plus, mais il s'en tire très bien, il est capable d'amadouer les gens, et somme toute, quand c'est le temps de dire les vraies choses, de temps en temps, il est capable de le faire.
Oui, non, tu as absolument raison. OK, on va s'arrêter, parce qu'on veut se garder du temps. De quoi tu veux nous parler, Paul, après la pause?
Infrastructure Québec.
Infrastructure Québec? Mais on a parlé.
Investissement Québec. Ben, encore e-Québec. Hein? On ne s'ostinera pas pour des mots compliqués.
e-Québec.
On s'arrête au retour. Et tu veux nous parler d'Infrastructure Québec?
On ne nous ostinons pas pour quelques syllabes. Hein?
OK. Investissement Québec. Qu'est-ce qui se passe? Donc, alors ça, il faut se rappeler, c'est l'agence d'investissement du gouvernement du Québec, oui, à laquelle François Legault veut donner un rôle beaucoup plus important pour attirer des investissements au Québec.
Oui, et il y a des têtes qui vont rouler. Le PDG actuel, Pierre-Gabriel Côté, ses jours seraient comptés.
Nommé par les libéraux. Hein?
Oui, nommé par les libéraux en 2015. Son mandat est de 5 ans. Il va probablement avoir la chance de terminer son mandat, mais il ne va pas pouvoir en avoir un deuxième. C'est Geneviève Lajoie qui nous apprend ça dans le Journal de Québec.
Est-ce qu'on sait par qui il serait remplacé?
Non, ils ne sont pas encore rendus là. Eux-mêmes ne le savent pas. Le gouvernement caquiste a mandaté, je pense, des chasseurs de têtes pour essayer de trouver son successeur.
Pourquoi couler cette information-là maintenant quand tu ne sais pas par qui tu vas le remplacer?
C'est prématuré, non?
Hein? Oui, Carl, tu es d'accord avec moi?
Oui,
hein?
Je suis d'accord, parce que là, ça crée une incertitude alors que tu n'as pas de plan B.
Puis là, Côté, qui sait qu'il va se faire dégommer? Là? Quel genre de rendement il va te donner d'ici ce temps-là?
Je suis d'accord avec vous, mais je ne sais pas comment la nouvelle est parvenue aux oreilles de la journaliste. Là. Je ne sais pas si c'était volontaire ou non. Mais en effet, ce n'est pas dans l'intérêt, je crois, d'Investissement Québec que cette information-là coule en ce moment.
Mais on s'entend que cette nomination-là est très importante. Là. Oui, c'est un rôle clé. Ça va je vous garantis que ça va être un loyal, sinon un fidèle de Legault qui va se retrouver là.
Oui, puis on a souvent parlé de nomination partisane. Puis moi, c'est une expression qui m'énerve un peu, parce que pour certains postes, c'est normal que tu veuilles que le dirigeant ou la dirigeante soit en symbiose avec le gouvernement. C'est normal que le gouvernement caquiste donne une certaine couleur, certaines orientations à Investissement Québec, puis ils doivent aller chercher quelqu'un qui est d'accord avec ces nouvelles orientations, puis peut-être aussi qui a une expertise compatible avec le virage qu'ils veulent faire prendre à Investissement Québec. Évidemment, la question que... Parce qu'on se souvient qu'autant dans l'opposition qu'en campagne électorale, M. Legault n'arrêtait pas de dire « Investissement Québec, on n'est pas satisfait, il faut qu'il y ait plus de performance. » Puis moi, j'ai essayé de fouiller, savoir exactement c'est quoi le fameux virage qu'ils veulent apporter à Investissement Québec. Écoute, on en reste quand même aux intentions assez générales. On dit qu'on veut qu'Investissement Québec prenne plus de risques, plus de flexibilité. Ce que je comprends, c'est qu'on semble vouloir s'éloigner des programmes un peu plus normés, du genre on offre là, des prêts à toutes les entreprises qui correspondent à certains critères, puis on veut de façon plus agressive aller sélectionner certaines personnes, prendre des participations.
Donc, on augmente notre risque.
On augmente le risque.
Et donc, ça veut dire que les risques de perte pour le contribuable qui nous écoute augmentent avec.
Le risque ça va dans les deux sens.
Voilà, le rendement peut être meilleur si tu prends plus de risques. Mais si tu prends plus de risques, tu peux avoir plus de pertes.
Il peut être plus pas bon ou plus bon. Ça peut aller dans les deux côtés.
Ouais, tu vois comment il résume ça, lui.
Pierre-Gabriel Côté, là, j'ai une question, moi. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Est-ce que c'est l'histoire de la Tesla qui qui le fait couler comme ça, ou il y a d'autres choses?
Ça ne l'a pas aidé.
C'est quoi l'histoire de Tesla, rappelez-nous?
L'histoire de la Tesla, donc, il avait une Porsche comme voiture de fonction, puis il a passé à une Tesla, puis ça a coûté encore plus cher aux contribuables. Son allocation pour ses déplacements est passée de 20 à 30 000 $. Ouais. Moi, je savais pas qu'une Porsche, tu pouvais aller en haut d'une Porsche. Peut-être que je suis peu ambitieux, mais je roule en basse vitesse, Bernard.
Tu roules en vélo, pas en métro, toi?
Ah non, j'ai une voiture. Tu peux la reconnaître par les bris sur le pare-brise.
Bon.
Ça reste sécuritaire et autre dépenses qui lui étaient reprochées. Okay. Plus substantielles, celle-là, c'est les frais de déplacement, par exemple. On a dit qu'il avait pris 10 fois l'avion, que ça coûtait plus que pour se déplacer à l'intérieur du Québec, puis que chaque fois, il coûtait plus de 3 000 $. Mais je pense que au-delà de ces dépenses-là, qui étaient un réel irritant pour le gouvernement caquiste, il y a la question aussi de philosophie puis d'orientation.
Absolument. Carl, d'abord, décision de la Cour suprême, là, les restrictions pour les expatriés, les citoyens canadiens qui sont expatriés puis qui veulent continuer à voter, bon, ben, il y avait des restrictions. La Cour suprême a dit, là, c'est inconstitutionnel. Les gens qui sont canadiens sont canadiens, ont le droit de voter puis arrêter de restreindre le droit de vote.
C'est ça. La Charte des droits et libertés stipule sans réserve que chaque citoyen canadien a le droit de voter. La Cour suprême vient de confirmer ça. Il y avait eu des problèmes parce qu'évidemment, la loi en 93 empêchait après 5 ans les citoyens de voter. Ça a été contesté. Ça s'est rendu en Cour suprême. Là, évidemment, le gouvernement a changé la loi en décembre, mais ce que ça veut dire, c'est que les 1,4 million d'électeurs qui vivent à l'étranger depuis plus de 5 ans, il n'y a plus de restrictions, ils vont pouvoir voter et les gouvernements futurs n'auront pas changé ça.
Voilà, première affaire de régler. Deuxième affaire de régler, c'est passé un petit peu sous le radar, dis-je bien, puis c'est pour ça que je voulais que tu nous en parles. La question des facultés affaiblies, un résident permanent ou temporaire qui se fait prendre au volant sous l'effet de la drogue ou de l'alcool pourrait être expulsé.
Bien, c'est automatique. C'est automatique, puis je t'explique pourquoi. C'est que la peine maximale de la loi qui est entrée en vigueur le 18 décembre est passée de 5 ans à 10 ans. Autrement dit, c'est maintenant un crime grave, un crime de grande criminalité. Or, en vertu de la loi sur l'immigration, la protection des réfugiés, les résidents permanents et temporaires qui sont condamnés pour grande criminalité sont interdits sur le territoire canadien. Donc, ça va enclencher le processus d'expulsion immédiatement.
Donc ça veut dire, mettons, un réfugié là, qui est rentré par le chemin Roxham.
Exact.
Obtient son permis de conduire, se fait prendre sous l'effet de l'alcool ou même l'effet de la drogue, même s'il est en procédure pour se faire accepter comme réfugié puis avoir droit éventuellement à la résidence permanente, ça met fin à la procédure puis c'est bye-bye, mon cowboy, t'es expulsé.
Si t'es pas citoyen canadien, c'est fini, on te renvoie chez vous. Les procédures d'expulsion vont débuter immédiatement après la condamnation.
J'ai hâte de voir ça, moi, quand. J'ai hâte de
c'est
voir
quelque
ça.
Chose.
J'ai hâte, ouais, absolument. C'est pour ça que je voulais que tu nous en parles, parce que je suis certain qu'il y a beaucoup de gens, en tout cas comme moi, qui n'étaient pas au courant. Carl Bélanger, consultant, stratège, merci.
Salut.
Paul Journet, éditorialiste à la presse. Merci. À lundi,
merci.
Mes deux monos. Et puis, on s'arrête. Ben oui, vous autres aussi. Et ben on continue après la pause. Le Gogbou va prendre vos appels sur la fiscalité, le fardeau fiscal. Là. Paraît que ça s'améliore. Paraît que ça s'allège un petit peu. Qu'on en paye un petit peu moins en relation au tout. Sentez-vous ça après la pause?